Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale le ministre de l'Éducation nationale avec lequel vous pourrez dialoguer dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin pour cette nouvelle et dernière rentrée des classes d'une année scolaire qui aura été totalement inédite, marquée par l'épidémie de coronavirus, le confinement et donc la fermeture de tous les établissements scolaires. Alors dites-nous comment ça se passe ce matin, Jean-Michel Blanquer, avez-vous déjà des remontées du terrain? Est-ce que 100% des écoliers et des collégiens vont retrouver leur classe aujourd'hui?
C'est l'objectif, évidemment, et l'objectif est clair et net. C'est évidemment ce soir que l'on aura les données un petit peu consolidées, et puis tout au long de la semaine. Mais l'objectif, c'est bien 100% des écoliers et des collégiens. Nous savons tous que la situation est imparfaite. Elle l'est d'ailleurs dans tous les pays concernés par le confinement. La France est un des pays qui d'ailleurs fait le plus en matière de déconfinement scolaire, c'est-à-dire retrouve le maximum d'élèves après tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'était un enjeu majeur parce que je considère qu'on peut pas laisser les élèves sans école de mars à septembre, quels qu'ils soient d'ailleurs, tous les élèves. Et donc, pour moi, c'était très important que ces deux dernières semaines soient le semaine du retour à l'école. C'est pourquoi ma tonalité, c'est quand même une tonalité aujourd'hui de sérénité et de joie, même si ce mot est peu utilisé dans notre débat public. C'est très important, c'est une joie de reprise, c'est pas une rentrée scolaire bien sûr, mais de reprise, avec mille difficultés bien sûr, mais comme dans notre pays on souligne toujours les difficultés, ce matin je voudrais quand même souligner le fait que grâce aux chefs d'établissement, aux professeurs, à tout le monde en réalité, y compris les parents d'élèves,
vous êtes heureux.
Bien sûr, je suis heureux d'avoir obtenu ce résultat. Vous savez, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est-à-dire dire qu'il fallait attendre septembre. Certains même le préconisaient encore fin avril ou dans le courant du mois de mai. Tout le monde voit bien aujourd'hui que ce qui est bon, c'est le retour à l'école. Bien sûr, ça se fait parfois avec de nombreuses difficultés, mais elles sont inévitables et nous essayons de les réduire autant que possible.
Alors, vous ne vouliez pas d'une absence totale d'école pendant 6 mois. Alors, ils rentrent à l'école, mais ils rentrent pour 2 semaines seulement. À quoi ça sert de reprendre pour si peu de temps? Beaucoup de profs, de parents d'élèves s'interrogent sur l'utilité réelle de la chose. À quoi vont servir ces 2 semaines, Jean-Michel Blanquer? À une thérapie de groupe pour les enfants, pour les profs, pour les parents d'élèves, ou à travailler vraiment?
Les deux. Il y a vraiment une dimension psychologique qu'on ne doit évidemment pas du tout négliger. Elle est très importante. D'ailleurs, les professeurs ont déjà commencé à accomplir ce travail, et puis les psychologues scolaires aussi, d'ailleurs, pour les cas les plus importants. Évidemment, c'est pas aujourd'hui que tous les élèves rentrent. On a eu depuis plusieurs semaines beaucoup d'élèves qui sont déjà rentrés, où ce travail a commencé à être fait. Donc là, je dirais la posture psychologique de l'institution, elle est là, parce qu'elle est nécessaire. Et puis il y a tout simplement des choses simples de la vie. Retrouver ses amis, retrouver ses professeurs. Pour les professeurs, trouver leurs élèves, tout ça, ça compte. C'est très important. Mais c'est pas que ça. 2 semaines de cours, ce serait quand même extraordinaire que le ministre de l'Éducation nationale vous dise que 2 semaines de cours, ça ne compte pas. Bien sûr que ça compte. Chaque jour, chaque heure de cours compte. Et il y a donc aussi un travail pédagogique en cette fin d'année, même si c'est évidemment une année un peu particulière. Mais il y a une sorte de retour d'expérience à faire avec les élèves. Et puis maintenant aussi une forme de consolidation et de préparation à ce qui les attend pour l'année prochaine.
Que se passe-t-il, Jean-Michel Blanquer, si des parents n'amènent pas leur ou leurs enfants à l'école ce matin? Est-ce qu'ils sont signalés, sanctionnés auprès des autorités académiques ou pas?
On applique la règle normale, c'est-à-dire d'abord on leur fait signe. C'est ce qu'on a d'ailleurs fait, y compris pendant le confinement, c'est-à-dire d'appeler les familles, regarder ce qui se passe. Donc on est d'abord dans une posture de compréhension, d'aide et d'appui, puisque il peut y avoir des problèmes de tous ordres qui sont derrière ça. Mais ensuite, c'est tout simplement les règles normales qui s'appliquent et qui évidemment seront probablement à cheval sur la prochaine rentrée scolaire. Mais c'est normal de les appliquer.
Encore un mot sur les lycées, les lycéens. Vous aviez parlé d'un entretien individuel. Dites-nous, reprécisez de quoi il s'agit exactement et si cet entretien est garanti à tous ou juste fondé sur le volontariat.
Alors d'abord, il faut distinguer les lycées professionnels et les lycées généraux et technologiques. Les lycées professionnels étaient clairement notre priorité, compris dans les phases précédentes du déconfinement. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir des classes de lycées pro. C'est ce qui s'est passé. Je remercie d'ailleurs tous les acteurs de l'enseignement professionnel qui font un travail absolument magnifique et pas assez souvent souligné. Et vraiment, ils ont été excellents aussi dans cette phase-là. C'est-à-dire, ils ont réouvert. Vous avez des classes de terminal bac pro, des classes de CAP deuxième année en particulier qui étaient prioritaires, et d'autres classes qui ont ouvert, des ateliers industriels, bref, des choses qui étaient indispensables pour lutter contre le décrochage scolaire qui sévit davantage en lycée professionnel. Et puis en lycée général et technologique, eh bien le principe c'était quand même de réussir à ce que des niveaux entiers puissent rentrer. Donc dans certains cas, on a pu faire rentrer en particulier des classes de seconde. Et puis un entretien personnalisé pour tous, ce qui d'ailleurs peut avoir de grandes vertus, parce que c'est, vous savez, en période extraordinaire, il se passe aussi des choses plus positif parfois qu'en période ordinaire. Des choses plus négatives, c'est sûr, mais aussi des choses plus positives. Et donc, par exemple, ces entretiens personnalisés doivent se passer systématiquement. Oui, c'est un droit de l'élève, et je dirais même un devoir, et de sa famille. Et c'est le devoir de l'établissement de l'organiser. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. D'ailleurs, quand ça ne se passe pas, il faut signaler le cas au chef d'établissement de façon à faire avancer les choses.
Vous aviez estimé à 4% le nombre d'élèves totalement décrocheurs, entre guillemets, pendant le confinement. Est-ce que vous revoyez cette estimation à la hausse? Est-ce qu'elle a évolué? Qu'avez-vous à dire sur ce chiffre de 4%? Est-ce que vous l'avez minimisé?
Oui, on aura, au fil du temps, on aura toute une série de consolidations de nos données. Au début du confinement, c'était 8%. En fin de confinement, c'est-à-dire au 11 mai, c'était 4%. Grâce à ce travail dont je parlais à l'instant, d'ailleurs, de contact avec les familles qui a été accompli par exemple, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les CPE, enfin, tous les acteurs, et puis des élus locaux aussi, enfin, tout le monde, en fait, a mouillé sa chemise pour essayer cela. C'est comme cela que la France a taux de décrochage le meilleur ou le moins mauvais, si je puis dire, d'Europe, parmi, en tout cas, tout ce qu'on peut.
Et 4%, ça veut dire combien? Ça veut dire
500 000 élèves. 500 000 élèves sont 4% de 12 millions, ça fait à peu près
500 000 élèves, dont on n'a pas de nouvelles.
Enfin, ou quand on a, parfois on peut plus avoir des nouvelles, mais ils disent carrément nous ne venons pas parce que nous avons peur ou des choses comme ça. Oui, bien sûr.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 500 000 élèves?
On les rattrape. Donc on a un plan de décrochage pour chaque académie de France. Donc chaque rectorat a son plan de lutte contre le décrochage scolaire. C'est un projet d'abord pour réussir à contacter réellement toutes les familles, et ensuite pour avoir un parcours personnalisé pour ces élèves. C'est évidemment la première des priorités pour la préparation de rentrée. C'est aussi pour ça qu'on a bâti les vacances apprenantes, le soutien scolaire gratuit à la fin des vacances d'été, et puis toute notre stratégie que nous élaborons en ce moment même pour la rentrée scolaire, qui est un des grands aspects, c'est la lutte contre le décrochage.
Alors justement, sur les décrocheurs, mais plus généralement aussi les élèves qui ont ou auront des lacunes après le confinement, est-ce que vous prévoyez donc des remises à niveau à la rentrée, une sorte de sas pour rattraper ce qui n'aura pas été appris pendant cette période?
Oui, bien sûr.
Et alors, sous quelle forme?
Il va y avoir un plan ultra volontariste sur le sujet, et ça concerne potentiellement tous les élèves. Il y aura des évaluations de début d'année. Vous savez, je tiens beaucoup pour le CP, le CE1, on a déjà fait ça ces dernières années. En sixième, on va avoir une évaluation particulièrement robuste dans son contenu, notamment pour le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l'aide personnalisée. Nous discutons de cela avec les organisations représentatives, avec l'ensemble du milieu de l'éducation nationale. On va laisser aussi beaucoup de marge de manœuvre, aux acteurs, c'est-à-dire aux établissements, pour concevoir leur propre manière de faire ce rattrapage, en leur donnant des moyens à la fois en heures supplémentaires, mais aussi en liberté d'organisation.
Test pour les CPCE1 et 6e, c'est tout?
Non, pour chaque année, en fait, chaque niveau aura son... Mais simplement, c'est systématique, universel et obligatoire pour CP, CE1, 6e et seconde.
D'accord, mais ensuite, gamin de CE2 qui rentre à l'école en septembre.
Le professeur disposera d'outils d'évaluation qui sont particulièrement renforcées dans leur richesse pour la rentrée, avec un peu plus de liberté, si je puis dire, dans leur manière de l'utiliser. Mais à chaque fois, ce qui est fortement recommandé, c'est de les utiliser et d'en tirer des conséquences sur le déclenchement d'une aide personnalisée.
Donc elle ne sera pas tout à fait normale, en fait, la rentrée de septembre?
Non, elle a deux raisons de ne pas être tout à fait normale. La première est sanitaire. On ne sait pas encore comment elle sera sur ce plan-là. Donc moi, évidemment, mon souhait, comme tous, c'est qu'il n'y ait pratiquement plus aucune contrainte sanitaire, et que c'est quand même l'hypothèse principale, disons-le. Mais on a l'hypothèse peut-être d'une deuxième vague ultérieurement. Mais en tout cas, on travaille d'abord sur ce principe, puis sur d'autres scénarios. Et puis ensuite, deuxième contrainte, celle-là, elle est certaine, c'est avoir à rattraper ce qui a été perdu pendant la période actuelle. Et encore une fois, je pense que la France, c'est une catastrophe éducative mondiale, le confinement.
Oui.
Et je n'ai cessé de le clamer depuis le début, parfois contre vents et marées.
Vous avez été critiqué pour avoir dit ça.
Bien sûr, parce
notamment.
Que j'assume pleinement, et je pense que le temps me donne quand même raison, si vous voulez, que le Covid-19 n'est pas le seul sujet, n'est pas le seul problème de société que nous avons à traverser. C'est une catastrophe éducative mondiale.
C'est une catastrophe pour les enfants de ne pas avoir eu
des millions d'enfants en France, dans le monde. Bien sûr. Bien sûr, mais comment je m'étonne de que tout le monde ne pense pas ce point-là. On peut pas dire vive l'école tout le temps et au moment où il y a une grande crise faire comme si l'école c'était un sujet annexe. Non, c'est le sujet fondamental de la vie individuelle et de la vie collective. Et le sujet, on doit en avoir une vision mondiale parce que c'est des dizaines de millions d'enfants qui sont déscolarisés. On en parle avec l'UNESCO, avec beaucoup d'organismes et malheureusement avec des pays qui s'en sortent beaucoup moins bien que la France. Parce qu'on s'autocritique tout le temps, mais en réalité, si vous regardez ce qui s'est passé pour le confinement et le déconfinement, la France est un des pays qui s'en sort le mieux. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le moins de déscolarisés, c'est nous qui avons fait le plus d'enseignement à distance, avec d'autres bien sûr. Le Danemark par exemple a fait des choses intéressantes.
Et vous diriez catastrophe aussi pour la France ?
Eh bien, j'essaye de minimiser ça, évidemment. Et donc, je pense que ça n'est pas une catastrophe pour la France, parce que, précisément, il y a eu tout ce travail de toute l'éducation nationale. C'est pour ça que je veux rendre hommage. C'est 1 million de personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour cela. Et on doit continuer. Parce que justement, nous évitons la catastrophe. Mais dans certains pays, ce sera une catastrophe.
Avant le standard, juste une question. Ce matin, Nicolas vous a demandé sur les élèves, sur les profs. Savez-vous combien, en moyenne, à peu près, on ne demande pas au dixième près, combien de profs sont, aller au travail aujourd'hui et combien ne sont pas allés ?
Non, c'est impossible de vous le dire ce matin puisque c'est là aussi c'est quelque chose qu'on constatera ce soir, mais on estime qu'on va avoir à peu près 90% des professeurs, mais c'est purement c'est une estimation qui n'a pas de valeur scientifique à ce stade.
Mais vous saurez ce soir, mais c'est ce que vous estimez, 90% à peu près d'enseignants qui seront retournés.
Le 10% pouvant s'expliquer par des problèmes de santé ou d'autres problèmes attestés en quelque sorte. Simplement, vraiment, c'est les règles ordinaires qui s'appliquent maintenant et donc on s'attend à ce type de retour.
Allez, on file au standard où le jeune Niels nous attend. Niels, bonjour, tu es élève en 6e, je crois.
Oui, c'est ça, mais bonjour.
Bonjour, on t'écoute, Niels.
Bonjour, Niels.
Bonjour, monsieur le ministre. J'aimerais vous demander, j'aimerais savoir comment se passerait l'an prochain si la Covid reprend.
Comment ça va se passer la rentrée, tu veux dire, en septembre ?
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Niels, pour cette question. Jean-Michel Blanquer va te répondre.
Bon, c'est évidemment une très bonne question. C'est un peu la grande question, Niels. Et c'est une question qui est difficile, puisque par définition, on ne sait pas exactement où on en sera en septembre. Donc, plusieurs hypothèses. Soit le virus a complètement disparu, et c'est possible. On peut toujours espérer ça. Et dans ce cas, on reprend de manière normale. Soit il est un peu comme maintenant, c'est-à-dire pas très présent, et on aura des règles simples, tu vois, comme aujourd'hui, où tout le monde peut venir, où les règles de distanciation sont très simplifiées.
Ça va simplifier. Je lis au journal officiel le décret publié aujourd'hui. La distance d'un mètre s'applique dans la mesure du possible. Ça veut dire quoi, dans la mesure du possible ?
Ça veut dire que à l'école primaire, si ça ne doit pas faire obstacle au fait d'avoir tous les enfants dans la classe.
Si la distance d'un mètre ne peut pas s'appliquer, eh ben on l'applique pas.
Exactement. Okay, mais on essaye de l'appliquer. On va jusqu'au bout de la possibilité. Mais ça repose, si le Haut Conseil nous a ouvert cette possibilité, c'est parce que les études permettent de voir que les enfants de moins de 10 ans sont vraiment peu contagieux, même si je m'aventure peu sur le terrain strictement scientifique. Ensuite, pour continuer à répondre à Niels, soit donc il est à faible circulation, et donc c'est des règles relativement simplifiées qui permettent d'avoir tous les élèves en classe, et puis après, par contre, d'appliquer toute une série de règles comme le lavage des mains, les gestes barrières, etc. Autant de choses d'ailleurs qui pourront rester dans le futur. Le fait de se laver les mains, c'est toujours une bonne chose de toute façon. Et puis, troisième hypothèse, il est là de façon très forte. Et dans ces cas-là, on sera obligé d'avoir des règles un peu comme ce que l'on a eu dans la première période de déconfinement. Tu vois, d'avoir donc des tout petits groupes et puis d'avoir des activités ailleurs pour pouvoir avoir tous les élèves en même temps, mais pas tous dans le même groupe classe.
Frédéric, maire d'élèves, Lige, sur mon écran d'ordinateur. Bonjour.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Frédéric.
Oui, bonjour, monsieur le ministre. Je suis maire d'un enfant qui est en CM2. Je suis également représentant d'une association de parents d'élèves à Strasbourg. Ma question est la suivante. Pourquoi n'avons-nous pas cette année, donc une année exceptionnelle, prolonger l'année scolaire, c'est-à-dire pourquoi les enfants ne vont pas une semaine, voire 10 jours de plus à l'école.
Merci Frédéric.
Pour essayer de compenser et de rattraper ce manque que beaucoup ont pu avoir.
Aller au-delà du vendredi 3 juillet pour l'interrogation, pourquoi non, Jean-Michel Blanquer vous répond.
Bon, c'est une hypothèse qui était clairement sur la table. Hein. C'est pas du tout une question inimaginable. Simplement, il y avait plusieurs raisons pour ne pas le faire. Mais la première d'entre elles, en fait, c'est que tous les élèves n'ont pas pâti de la même façon de ce qui s'est passé. Vous avez des élèves même qui sortent à la limite. Parfois même renforcés du confinement, et pas seulement ceux de familles favorisées, mais aussi parfois des élèves qui se sont trouvés mieux dans cette situation. On est en train de faire le point pédagogiquement là-dessus, donc on a une très grande hétérogénéité des situations. C'est pourquoi depuis qu'il y a le déconfinement, c'est-à-dire depuis le 11 mai, nous avons voulu en prioritairement avoir les élèves les plus en difficulté et développer des stratégies pédagogiques pour chacun d'entre eux. C'est ce qu'on va continuer dans les temps qui viennent. Autrement dit, la solution, c'est pas une solution de masse où tout le monde ferait une semaine ou deux de plus de cours, mais une solution très personnalisée. C'est aussi l'enjeu des vacances apprenantes qui vont avoir lieu maintenant, du soutien scolaire gratuit. Hein. Par exemple, en CM2, ça concerne beaucoup le CM2, puisque vous êtes parent de CM2, il y aura du soutien scolaire gratuit à la fin du mois d'août pour toutes les familles qui le souhaitent. Donc, typiquement, on va inciter les élèves qui en ont le plus besoin, et c'est encore mieux que d'avoir une semaine de classe en plus, parce que c'est en petits groupes, en tenant compte des difficultés de l'enfant, etc. Donc, l'enjeu, c'est plus la personnalisation du traitement de la difficulté scolaire. Et puisque vous êtes parent d'élèves de CM2, je vous signale que votre enfant aura des fables de La Fontaine, comme tous les CM2 de France, au cours des deux prochaines semaines.
Voilà pour les vacances. Catel est en ligne. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Monsieur Blanquer, j'aimerais savoir si les oraux de rattrapage des terminales seront réellement organisés, sachant que toutes les épreuves précédentes ont été annulées.
Merci Catel pour cette question. Réponse rapide, oui, Jean-Michel Blanquer, s'il vous plaît.
Oui, la réponse est oui, et d'ailleurs aux dates qui étaient prévues initialement. S'il y a bien une chose qui n'a pas été modifiée dans son principe et dans sa date, c'est les oraux de rattrapage du baccalauréat.
Léa
ou... Oui, on y va. Le SNPDEN, UNSA, syndicat majoritaire des personnels de direction dans le second degré, pointe hier dans le journal du dimanche un état d'épuisement rarement atteint, l'apparition d'un sentiment majoritaire de défiance vis-à-vis de l'institution et des risques potentiels de conflits sociaux. Vous répondez quoi aux chefs d'établissement ?
D'abord, les chefs d'établissement ont eu un rôle exceptionnel pendant le confinement et le déconfinement, et je voudrais les en remercier, quelles que soient leurs appartenances syndicales ou autres. Ce que chacun doit reconnaître, c'est leur rôle fondamental dans la société, et ils ont été extraordinaires. C'est eux qui ont, vous savez, on était tous les jours avec les recteurs, qui eux-mêmes étaient avec les chefs d'établissement pour les inciter à téléphoner aux professeurs, qui eux-mêmes téléphonaient aux familles. Tout ce système s'est mis en place grâce au service public de l'éducation nationale,
ouais, là, ils sont au bord de la
dont
crise
ils sont
de
nerfs, dépliés. C'est très fatigant ce que certains ont eu à faire. Pas tous d'ailleurs, la situation est différente selon les cas, mais c'est puisque en effet les règles évoluent de 3 semaines en 3 semaines, mais c'est chacun doit comprendre que les difficultés rencontrées sont celles qui sont liées au virus, pas à autre chose. Donc simplement, et puis il était normal que nous pilotions étape par étape, donc évidemment c'est eux qui sont en première ligne pour ce pilotage étape par étape. Il est fatigant, mais je pense que dans un moment comme ça, nous devons être tous unis pour relever le défi. Ça, il n'y a pas besoin de s'énerver les uns contre les autres. C'est vrai dans tous les domaines. On a surtout besoin d'avancer, mais on doit surtout reconnaître le travail extraordinaire des chefs d'établissement.
Avant de retourner au standard, une question via Twitter, en apprenant votre venue ce matin au micro d'Inter. Quentin L'Huillier, qui se présente donc sur Twitter comme le porte-parole du collectif des admissibles aux concours internes de l'éducation nationale, vous demande la chose suivante. Pourquoi lancez-vous une campagne de recrutement des profs alors que les 8000 candidats expérimentés des concours internes crèvent de ne pas être admis? Il demande donc l'admission de ces 8000 admissibles aux concours internes. Que lui répondez-vous?
Alors, c'est deux sujets différents, les concours externes et le concours interne. Oui. On n'a pas de vase communicant. Il est tout à fait normal qu'on maintienne les droits de ceux qui vont se présenter ou qui se sont présentés au concours externe, et idem pour le concours interne. J'ai écouté les candidats au concours interne, puisque ce qui m'était demandé, c'était que l'oral n'ait pas lieu et que nous nous basions uniquement sur l'écrit. C'était une longue discussion, parce que ça n'allait pas de soi, et j'ai accepté cela pour tenir compte des circonstances exceptionnelles. Donc j'ai vraiment été à l'écoute. Maintenant, ce qui est certain, c'est que, et je le comprends, certains attendent le résultat parce que les jurys se tiennent les uns après les autres. Ça prend nécessairement du temps, j'en suis désolé. Évidemment, comme prévu, c'est le nombre exact de ceux qui étaient des admis prévus qui sera admis, c'est-à-dire en gros la moitié des admissibles.
Et par ailleurs, 4 000 et pas 8 000.
Non, mais c'est ce qui était prévu de toute façon. Si vous voulez, c'était 4 000 et pas 8 000. Et donc, il n'y a pas ce que nous avons accepté qu'il n'y ait pas l'oral. Mais par contre, il y a le nombre prévu. Par contre, les listes complémentaires seront largement ouvertes. Donc, même ceux qui ne sont pas admis, beaucoup d'entre eux, un grand nombre d'entre eux seront admis au fil justement des besoins de l'éducation nationale. Et donc, oui, nous tenons compte des besoins de l'éducation nationale, et cela aura un effet positif pour eux.
Claude au standard nous appelle de Nantes. Bonjour Claude, bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour, bonjour France Inter. Je me posais une question ce matin, vous venez nous parler de distance sanitaire et parallèlement votre gouvernement laisse faire des rassemblements de milliers de personnes.
Ah ça, c'est la fête de la musique, ça.
Oui, c'est la fête de la musique, mais bon, les gens voyaient bien qu'il n'y avait pas de masque et puis pas de distance. Comment va-t-on expliquer à nos enfants qu'il faut avoir des distances alors que votre gouvernement laisse faire des choses pareilles?
Merci, merci Claude pour cette question. Jean-Michel Blanquer vous répond.
Alors, vous m'invitez à sortir de mon champ de compétences, parce que
mais
j'ai
oui,
pas de
mais
responsabilité
oui. dans la fête de la musique.
Mais ce qui est certain, c'est que nous devons nous, les adultes, donner l'exemple, et que la logique dans laquelle on est rentré, c'est depuis maintenant plusieurs semaines, c'est quand même d'être sur une logique de responsabilité. On ne peut pas tout interdire dans la vie quotidienne et mettre un policier derrière chaque personne. Donc, c'est vraiment une logique de responsabilité. Je pense que notre société.
Ça vous a choqué les images d'hier à Paris notamment, vous vous êtes dit au fond, les jeunes ont été confinés pendant 3 mois, qu'ils s'éclatent, tant mieux.
Pour être franc, je ne les ai pas vus parce que je travaillais, mais, néanmoins, je m'en a parlé, donc peut-être que je suis plus indulgent que d'autres vis-à-vis de ça, que certaines fois, quand les premiers temps du déconfinement, je voyais des jeunes ensemble dans la rue, c'était plutôt un sentiment de bonheur qui m'étreignait qu'un sentiment de condamnation. Mais ça, c'est ma personnalité, c'est pas une règle.
La réforme des retraites, Jean-Michel Blanquer, elle est manifestement toujours à l'ordre du jour. Il y avait eu une grande mobilisation des enseignants contre cette réforme. Ils craignaient d'être les perdants du nouveau système à points. Avant le Covid, vous étiez en train de négocier avec les partenaires sociaux les compensations pour éviter la perte des pensions et la baisse des pensions. Est-ce que vous allez reprendre la négociation avec les syndicats? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu?
Oui, bien sûr. Parce que le sujet, je le disais à l'époque, excède le sujet des retraites. Moi, mon engagement vis-à-vis des retraites, c'était qu'ils ne perdent pas en matière de retraite et que ce faisant, on en profite pour que la rémunération s'améliore. Ce qui, de toute façon, est un impératif catégorique pour notre pays. Puisque les pays qui vont bien sont des pays qui payent bien leurs professeurs.
Donc, qu'est-ce qui est prévu pour le ministre de l'Éducation dans les prochains jours?
C'est évidemment de reprendre les choses dans les termes nouveaux du contexte, sachant qu'il y a le sujet de la rémunération, qui doit augmenter notamment pour les plus jeunes dès 2021. Ça, c'est un engagement que j'ai pris. Deuxièmement, une vision pluriannuelle du sujet qui nous permette aussi de voir non seulement les enjeux de rémunération, mais vous voyez les enjeux de recrutement, les enjeux de déroulement de carrière, les enjeux de mutation, pour que tout simplement il y ait un bonheur au travail des professeurs plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est donc sous l'angle quantitatif et qualitatif que j'aborde cette négociation.
J'entends, mais les enseignants doivent se préparer. Il y aura la réforme à point qui arrive pour eux.
Non, alors ça, je ne peux pas. C'est un sujet évidemment
interministériel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on
je ne vous ai pas dit ça. Non, honnêtement, je ne suis pas capable de vous répondre à cette question aujourd'hui. Je n'ai pas de fétichisme sur ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient une bonne retraite, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, et surtout que la rémunération s'améliore.
Merci.
Pas de fétichisme ni d'enthousiasme à l'égard de cette réforme des retraites non plus, Jean-Michel Blanquer, depuis le début.
Je ne dirais pas ça. Je pense que c'est la retraite à points est un principe très juste qui, vous le savez, au début était défendu par la CFDT. Après, il y a la manière de conjuguer tout cela qui peut être très variable et donc on doit être à la fois pragmatique et sociaux sur ce sujet.
Merci, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été au micro d'Inter ce matin et d'avoir dialogué avec les auditeurs qui étaient une fois encore extrêmement nombreux au standard. Merci.